Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Je suis heureux de recevoir au micro de Canal Académie Stella Gervas. Stella Gervas, bonjour.
Bonjour.
Alors je vous présente à nos auditeurs, vous êtes docteur en histoire de l'université de Bucarest, docteur ès lettres de l'université de Genève. Je vois que vous voyagez beaucoup, vous avez aussi un diplôme de l'université de Saint-Pétersbourg, vu que vous êtes titulaire d'une maîtrise en philosophie et en sciences politiques de cette université. Vous êtes actuellement chercheur à l'Institut d'études avancées à Paris, où vous travaillez sur le projet de recherche « L'Europe élargie de la Sainte Alliance au traité de Lisbonne », un sujet passionnant qui relie à la fois le passé et le présent. Alors, vous avez reçu dernièrement le prix Guizot de l'Académie française pour votre ouvrage « Réinventer la tradition, Alexandre Sturza et l'Europe de la Sainte Alliance ». Donc, « Réinventer la tradition », un ouvrage paru chez Honoré Champion. Le prix Guizot est un prix important qui couronne un livre non moins important sur un sujet malgré tout peu connu en France, l'œuvre littéraire d'un homme, Alexandre Sturza. Donc nous allons découvrir qui était ce personnage, mais nous allons aussi découvrir son œuvre politique puisque Sturza fut un des inspirateurs de la Sainte Alliance. Alors, avant de connaître ce personnage, avant de présenter ce personnage, est-ce que vous pourriez nous dire, Stella, comment vous êtes arrivée à un tel sujet ? Vous êtes moldave d'origine. Alors, on ne comprend pas, j'allais dire, il y a un point commun entre votre personnage et vous, c'est, si vous me permettez, un certain cosmopolitisme. Parce que l'Europe de l'Est, que nous voyons, nous, comme Europe de l'Est, c'est une Europe qui est tournée vers plusieurs nationalités. Je me trompe ?
Vous avez tout à fait raison, mais je n'irai pas juste pour dire que je m'identifie complètement à mon personnage. J'ai rencontré Alexandre Sturza, effectivement, au figuré donc, à Saint-Pétersbourg. Par hasard, cela fait plus de 17 ans, quand j'étais étudiante effectivement, à l'université de Saint-Pétersbourg. Et je suis tombée complètement par hasard sur un fonds Sturza qui n'était pas classé à l'époque, qui se trouve donc à la maison Pouchkine, le musée de la littérature de l'Académie russe à Saint-Pétersbourg. Un fonds qui était très riche en documents, avec des documents, des manuscrits en 7 langues différentes. Et c'est un petit peu le hasard qui a fait les choses. Mais effectivement, par la suite, c'est vrai que j'ai pu travailler sur ce sujet parce que je connaissais les langues de mon personnage. Et cela explique aussi en partie pourquoi j'ai voulu suivre ces traces. Cela d'ailleurs m'a amené plus tard, donc à Genève notamment, puisque je cherchais simplement les correspondants d'Alexandre Sturza et donc les réponses à ses lettres. C'est pour cela d'ailleurs, un petit peu, j'ai essayé de suivre ses traces en suivant plutôt les archives, les fonds d'archives.
Alors, ce personnage, vous parliez des langues, c'est un personnage qui parlait plusieurs langues, c'est un personnage qui a un milieu familial qui, là aussi, est lié à un certain cosmopolitisme, si on peut utiliser ce terme, je pense que c'est plutôt un néologisme.
Multiculturel, en tout cas. Multiculturel,
sûrement, oui.
C'est vrai qu'Alexandre Sturza, il est né à Iași. En roumain, on dit « Iași » tout à la fin du XVIIIe siècle, en 1791. À l'époque, Iași, c'était la capitale de la Moldavie, aujourd'hui de la principauté de Moldavie. Aujourd'hui, c'est la deuxième ville de Roumanie. Et c'était un état de suzeraineté ottomane. Alors, Alexandre, son père, Scarlat, provient d'une grande famille moldave qui a donné plusieurs princes régnants à la Moldavie et à la Valachie, aux principautés roumaines. Sa mère provient d'une grande famille grecque, Fanariote, Mourouzi. C'est la classe dirigeante de l'Empire ottoman. Et effectivement, Sturza est né dans cette famille multiculturelle, mais il faut dire que cette multiculturalité était tout à fait normale pour la région.
Exactement. C'est-à-dire que quand on étudie ces grands empires, on a du mal, nous, Français, à se rendre compte de ce multiculturalisme multiculturalisme et ce multilinguisme, puisque par exemple un habitant de l'Empire austro-hongrois parler plusieurs langues. Là, un habitant de l'Empire russe ou un habitant de l'Empire ottoman parlait plusieurs langues.
Effectivement, un contemporain russe, un conseiller du tsar, Fyodorovitch Vigel, remarquait dans ses mémoires que Sturza parlait les langues comme Tsofanti, les langues classiques et les langues modernes. Il s'étonnait de sa vaste culture qui, on va voir par la suite, qu'il a acquis dans un petit village d'Oustier, dans la région de Mogilev. Alors, je souhaite revenir juste en deux mots sur l'histoire de la famille Sturza, donc il est né en principauté de Moldavie, mais son père Scarlat déclarait du côté des Russes lors d'une nombreuse guerre russo-turque. Alors, manque de chance, dans celle-là, les Russes ont été battus. Scarlat est obligé de quitter la Moldavie, Yassi, il abandonne tout. Il décide d'émigrer avec la famille en Russie en suivant l'armée. C'est ainsi que la famille Sturza arrive à Saint-Pétersbourg, d'abord à la cour russe, à la cour du tsar. Mais quelques années plus tard, il déménage dans la province de Mogilev, en Biélorussie, dans un petit village d'Oustier. En russe, on dit Glubinka, la Glubinka, c'est-à-dire le patelin, un trou perdu. Et alors, c'est pour cela que Vigel, que je viens de citer, il s'étonnera en fait de la connaissance des langues et de la vaste culture de Sturza, parce qu'il a été éduqué dans cette province éloignée de la capitale.
Mais comment arrive-t-il justement à cette culture? C'est grâce à sa famille, grâce à ses parents?
Tout à fait. Alors, Scarlat Sturza, tout d'abord, le rôle du père est très important. Scarlat avait étudié dans sa jeunesse lui-même à l'université de Leipzig, en Allemagne. Il était passionné par la philosophie des Lumières, par les philosophes des Lumières français, mais aussi allemands. Et il abandonne tout à Yassi, ses terres, sa fortune, mais il prend avec lui sa bibliothèque. Une bibliothèque très riche, il prend tous ses livres et il l'amène avec en Russie et ensuite dans la province de Mogilev. Il faut dire que c'était une des plus riches bibliothèques de la principauté de Moldavie, puisqu'on a un témoignage d'un voyageur, d'un témoin allemand qui avait remarqué cette richesse. C'était une bibliothèque pour l'époque très impressionnante, puisqu'il contenait aussi des périodiques. Scarlat Sturza lisait régulièrement le journal encyclopédique, donc c'était des journaux réservés d'habitude aux princes régnants. Alors, cette vaste bibliothèque et le désir, en fait, de Scarlat Sturza de donner à ses enfants une éducation occidentale, une éducation européenne, va permettre donc justement à son fils, à Alexandre, d'apprendre très jeune les langues étrangères, le français notamment grâce à un précepteur français catholique, Jean-Joseph Dopagne. D'ailleurs, Sturza, Alexandre, notera quelques années plus tard que dans son enfance, tous les jeux, tous les enthousiasmes étaient partagés avec les Français. Je cite de mémoire, mais c'était une façon de dire qu'il a baigné très tôt dans la langue et la culture
Alors,
française.
Alors, il parle plusieurs langues, 6 langues, ce qui est extraordinaire. Alors, il est loin, il est dans ce trou perdu, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, mais il s'intègre, il arrive à s'intégrer à la haute société de Saint-Pétersbourg, puisqu'il fréquente sans aucun problème, et ceci très tôt, dès l'âge de 17-18 ans, les milieux politiques russes.
Vous avez tout à fait raison, et quand je dis effectivement le trou perdu, il ne faut pas penser que Sturza a été complètement isolé. Parce que dans cette province de Mogilev étaient exilés les anciens favoris de la grande Catherine, de la tsarine, et qui est tombé en défaveur de son fils, Paul Ier. Et parmi les voisins immédiats de la famille Sturza, on trouve en fait l'amiral Tchitchagov ou encore d'autres représentants de la grande noblesse russe.
Donc, c'était une famille pas vraiment isolée, donc qui reste en contact,
avec la haute société. Et effectivement, avec l'avènement du tsar Alexandre Ier en 1801, la famille Sturza décide de déménager à Saint-Pétersbourg. Et là, grâce à ces contacts qu'ils avaient établis dans la région de Mogilev, les enfants Sturza sont très vite admis dans la bonne société, à la cour. Et c'est d'abord Roxandre, la sœur aînée d'Alexandre, qui rentre à la cour en 1805. Elle devient très vite la demoiselle d'honneur préférée de la tsarine Elisabeth, épouse du tsar Alexandre Ier.
Elle est tout aussi brillante que son frère.
Le même Vigel dirait qu'il était très moche, qu'il avait une tête de vache qu'on le rencontrait, mais on était tout de suite impressionné par sa vaste culture et par la douceur de sa voix. Alors, en regardant les lithographies de l'époque, on ne dirait pas qu'elle était si moche que ça, mais elle était très cultivée. Elle connaissait aussi six langues comme Alexandre, comme son frère cadet. Et parmi ces langues, à part donc le français que j'ai signalé, figurent bien évidemment le russe et le grec, les deux langues qu'il parlait en famille, mais également l'allemand, le latin, le grec ancien et l'italien.
Alors, il intègre assez tôt les affaires, puisqu'il rentre au département des affaires étrangères à l'âge de 18 ans. C'était une chose classique de rentrer aussitôt dans un tel département ?
Il faut dire qu'Alexandre Sturza, son entrée dans le service diplomatique a été facilitée par les contacts qu'il avait, notamment par le fameux amiral Tchitchagov, les voisins de leur propriété en Biélorussie, qui était le ministre de la marine du tsar. Et d'autre part, Roxandre, sa sœur qui avait été acceptée à la cour, permettra à son frère cadet de rentrer assez vite. Mais justement, parce qu'il s'est fait très vite remarquer par ses qualités intellectuelles, par sa vaste culture, ses connaissances linguistiques et historiques. Et pour cela qu'il est admis très tôt, effectivement, dans le service diplomatique. D'abord, il rentre donc au service du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il travaille quelques temps donc dans la chancellerie du tsar. Et cela ouvre la porte par la suite pour que Sturza soit accepté comme membre de la délégation russe au congrès de Vienne.
Alors justement, quel va être son rôle, mais peut-être avant de voir Vienne, quelle va être son action, notamment dans les années 1812. On va voir que l'année 1812 est très importante dans l'histoire russe. C'est ce que je vous propose de voir, Stella, après cette première pause.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademie.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Alexandre Sturza. Je reçois Stella Gervas, qui est historienne, auteure du livre « Réinventer la tradition, Alexandre Sturza et l'Europe de la Sainte Alliance ». C'est un livre paru chez Honoré Champion qui a reçu le prix Guizot de l'Académie française. Alors nous avons présenté les origines de ce personnage exceptionnel, très intelligent, avec énormément de capacités, qui rentre dans la chancellerie, puis dans la délégation russe qui ira à Vienne pour négocier dans le cadre que l'on connaît bien. Mais avant peut-être d'évoquer ce fameux congrès de Vienne, peut-être quelques mots sur l'époque 1812, 1813, 1814, jusqu'au congrès de Vienne. C'est un moment important, l'année 1812, pour l'histoire russe. Il y a un contexte qui est le contexte de la guerre. Il y a véritablement un élan patriotique russe contre, finalement, cette France.
Tout à fait. 1812, la guerre patriotique, la grande guerre patriotique, les Russes, donc pour eux, c'était une guerre nationale, a été un véritable choc pour la population russe. On se souvient de cette image puissante, en fait, de Moscou en flammes. C'est tout un symbole. Durant cette période qui a suivi la guerre, non seulement la noblesse russe, il y a de renaissance du sentiment religieux, mystique, à la cour du tsar.
Alors là, c'est très important parce que pour l'instant, nous parlons politique et vous parlez de mysticisme et de religion. Il y a vraiment dans cet élan patriotique une part religieuse et on ne peut pas comprendre cette époque sans voir ce sentiment religieux.
Tout à fait. Les deux sont d'ailleurs tellement imbriqués, tellement liés que parfois c'est difficile même de séparer les choses. Et on verra effectivement par la suite avec la Sainte Alliance. Mais c'est une religiosité, je dirais une spiritualité. Il y a un regain de spiritualité, mais du 19e siècle, puisque ce n'est pas l'Église officielle qui dirige, disons, ce courant ou cette renaissance du message religieux. Et il y a un mélange en fait, tous les courants spirituels et religieux mystiques sont présents à la cour du tsar. On passe du piétisme protestant, on passe par le catholicisme ou encore par l'orthodoxie. Et tous ces courants religieux sont bien bien représenté à cette époque. D'ailleurs, le tsar lui-même, Alexandre Ier, ce moment en 1812 est important puisque pour certains historiens, ce moment marque l'entrée, le début de la phase mystique du tsar Alexandre Ier qui va par la suite le préparer, l'inspirer pour son traité de la Sainte Alliance.
Je vous renvoie d'ailleurs à l'émission enregistrée avec Alain Carrère d'Ancos sur le sujet. Donc, il a une première mission dans les Balkans, si mes souvenirs sont bons, une première mission dans les Balkans 1812-1813. Il passe par Vienne, il est en mission à Vienne quand on va le chercher pour faire partie de la délégation russe, c'est cela ?
Effectivement, Sturza sera nommé en 1813 le secrétaire particulier des Capodistria, Jean Capodistria, qui est ministre des Affaires étrangères et qui sera le chef de la délégation russe au Congrès de Vienne. Capodistria, qui était d'origine grecque de Corfou, donc il connaissait bien la famille Sturza d'ailleurs. Alexandre Sturza suivra simplement son chef, son supérieur, lors de son voyage en Europe occidentale, qui va aboutir notamment à l'acte final du Congrès de Vienne et au traité de la Sainte Alliance.
Alors, précisément, quel est son rôle dans l'écriture du texte créant la Sainte Alliance ? Est-ce qu'on peut parler de courant ? Est-ce qu'on peut parler d'une vision uniquement russe ou d'une vision européenne des choses ?
C'est un vaste sujet qui demande quelques précisions. Il faut d'abord définir ce que ce traité de la Sainte Alliance, ou plutôt définir ce que ce traité n'est pas. On le confond souvent avec l'acte final du Congrès de Vienne.
Or, ce n'est pas le cas.
Du 9 juin 1815. Or, ce n'est pas le cas puisque l'acte du traité de Vienne, c'est un traité de paix qui met le point final aux guerres napoléoniennes et qui finalement redéfinit en substance les frontières des États. Alors, ce n'est pas non plus le traité de Paris. Ce traité de la Sainte Alliance, parfois, est confondu aussi avec ce second traité de Paris du 20 novembre de la même année, qui confirme une alliance militaire, la quadruple alliance entre la Russie, la Prusse, l'Autriche et l'Angleterre. Donc, on a un traité de paix d'un côté et de l'autre, une alliance militaire qui doit assurer, en fait, garantir l'application de ce traité. Le traité de la Sainte Alliance, c'est tout à fait autre chose. C'était un traité multilatéral signé à Paris le 26 septembre 1815 et qui était proposé par le tsar Alexandre Ier dans le but de créer un nouveau système européen pacifique. Il a contribué d'ailleurs à créer ce qu'on va appeler par la suite le concert européen qui prévoit des mécanismes de négociation. On peut d'ailleurs le voir comme une tentative de société des nations avant la lettre. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que ce traité politique européen, c'est le premier traité qui sera signé par tous les pays du continent. Un pays petit ou neutre comme la Suisse, un grand pays comme la Prusse, un pays vaincu comme la France, tous les pays du continent signeront ce traité, mais non pas par l'Angleterre. Il ne sera pas signé par l'Angleterre ni par le Saint-Siège. Et nous allons voir pourquoi.
Justement, pourquoi ? Parce que vous démarriez votre propos en disant « voyons ce qu'il n'est pas ». Donc, vous avez bien distingué les aspects politiques, militaires de ce traité de Sainte-Alliance. Et c'est vrai que nous, Français, on voit un peu la Sainte-Alliance, j'allais dire, comme un contrepoint, une volonté d'opposition au mouvement révolutionnaire français et au mouvement révolutionnaire d'ailleurs européen tel qu'ils vont se développer au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut le qualifier comme tel ?
Le traité de la Sainte Alliance tout court, il a une sorte de légende noire donc, qui a été perpétuée notamment par l'historiographie romantique. Il a une sorte d'image en fait, d'une entreprise rétrograde, obscure. Et on verra par la suite en fait, comment cette légende noire a pris naissance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on lit la Sainte Alliance, le texte de la Sainte Alliance qui tient sur à peine deux pages imprimées, aujourd'hui on est surpris par sa forme. Alors, ce traité contient des références effectivement à la Trinité, à la Sainte Providence.
C'est un traité religieux.
Religieux, mystique, mais je mets l'accent sur la forme. Effectivement, écrit dans un langage lyrique, parfois sentimental, on a des expressions du genre « on recommande au souverain signataire de gouverner dans l'esprit d'un soin tendre ». Alors aujourd'hui, ça nous fait fait sourire. Un traité politique signé par tous les pays du continent, ça nous fait sourire. Et effectivement, on demande aussi à ce souverain de se comporter comme les membres de la même famille, du peuple chrétien. Ça, c'est quand même une chose à relever, c'est que pour la première fois dans un traité politique, on utilise l'expression de famille européenne.
Famille européenne, il y a le terme de chrétien. Vous avez une expression, vous l'utilisez, je ne l'invente pas, d'une forme d'œcuménisme, parce que il y a à la fois, j'allais dire, une tendance protestante, une tendance catholique et bien évidemment une tendance orthodoxe, vu que le traité a été largement inspiré par la Russie, défendu et présenté par Alexandre Stourdza.
Attention, quand on dit mystique, ça ne veut pas forcément dire rétrograde. C'est vrai que vous avez relevé ce point, le fait que ce traité va au-delà des différences confessionnelles entre protestants, catholiques et orthodoxes. Effectivement, on pourrait parler d'un écuménisme avant la lettre et c'est une nouveauté tout à fait neuve pour l'époque.
Alors, au fond, comment est accueilli ce traité ? Il est signé par tous, vous l'avez dit, sauf par le Saint-Siège et par l'Angleterre. Pourtant, on voit que ce qui prime avant tout, au fond, c'est la position de Metternich, qui est tout simplement la politique du statu quo. Et on est, j'allais dire, très loin de l'esprit religieux chrétien de la Sainte Alliance.
Alors,
n'est-ce pas au fond le traité de Paris qui prend le dessus sur cette idée de Sainte Alliance ?
Et effectivement, cela me rappelle un bon mot du comte Castlereagh, le ministre anglais des Affaires étrangères, qui a dit que la Sainte Alliance, c'était un morceau de mysticisme sublime et de non-sens. Alors, le ministre anglais ne voit pas, ou plutôt feint de ne pas voir, que d'une part, ce projet répondait à un besoin géopolitique tout à fait rationnel, qui était celui d'instaurer la paix, assurer la paix sur le continent. L'Europe aspirait à la paix après les 20 ans de l'épopée révolutionnaire et napoléonienne. Il faut rappeler quand même que les guerres napoléoniennes ont fait environ 3 millions de morts en Europe. Et rien que la bataille de Leipzig de 1813 a impliqué plus de demi-million d'hommes. Donc c'était la bataille la plus importante avant la Première Guerre mondiale. Et effectivement, le désir premier d'Alexandre, qui on lui a reproché que c'est un idéaliste, que c'est un projet utopique, mais le but principal de son traité, de la Sainte Alliance, c'est de trouver un moyen pour assurer la paix en Europe. Et je fais une petite parenthèse ici pour vous dire qu'Alexandre Ier, le tsar, citait souvent à l'époque de la préparation dans les années 1813-1814, notamment le projet pour la paix perpétuelle de l'abbaye de Saint-Pierre, et cette idée d'une paix perpétuelle a fait son chemin au XVIIIe siècle, puisqu'elle a été reprise par la suite par Rousseau et par Kant. Et Alexandre Ier, le tsar, souhaitait vraiment trouver un moyen pour arriver à signer une alliance entre les peuples européens en la fondant sur le christianisme. Elle plonge aussi ses racines, c'est pour dire qu'elle plonge ses racines dans le XVIIIe siècle et notamment dans la philosophie des Lumières.
Alors voilà, ça c'est très important, donc on va ouvrir une grosse parenthèse, si vous voulez bien Stella. C'est une parenthèse, c'est tout un chapitre de votre ouvrage où vous montrez l'influence des Lumières sur l'œuvre d'Alexandre Stourdza. Il se serait erroné de voir, j'allais dire, son œuvre comme une œuvre rétrograde, alors que précisément, on voit que Rousseau, Montesquieu, alors moins Voltaire le concernant, mais et Rousseau et Montesquieu ont leur influence sur, non seulement sur les Russes, mais plus précisément chez Alexandre Stourdza.
Tout à fait. On pourrait même faire un parallèle avec le tsar lui-même. Bien évidemment, il comparait accessoirement Alexandre Stourdza avec le tsar, puisque les deux ont une éducation occidentale. Les deux connaissaient bien, en fait, les textes des Lumières. Rappelons-nous juste que le précepteur du tsar avait été un Suisse libéral qui est l'ARP. Alors, c'est vrai que les deux connaissaient très bien, en fait, ces textes. textes, ils étaient imprégnés de cette culture du 18e siècle, une culture cosmopolite fondée sur les valeurs des Lumières. Et ce qui est intéressant, que Sturza, par rapport par exemple à un autre représentant de cette famille des penseurs conservateurs, qui est Joseph de Maistre, il ne va jamais renier la culture des Lumières. D'ailleurs, il va s'attaquer à un ouvrage de Montesquieu qu'il admirait et en même temps par rapport auquel il était très critique, c'est l'esprit des lois. Sturza va écrire un essai sur les lois fondamentales de la société et les institutions humaines, un essai qui s'inspire de l'esprit des lois de Montesquieu, mais qui est très différent. D'abord par le fait que Sturza représente un autre espace européen qui est l'espace oriental, des traditions gréco-byzantines. Si, par exemple, Montesquieu parlait de deux types de lois, les lois naturelles et les lois civiles, alors Sturza introduit une troisième loi qui est la loi révélée, qui permet aux autres lois d'interférer, de fonctionner.
Qui est la loi divine.
Qui est la loi divine.
Et alors,
c'est ça la différence essentielle.
Il existe pour Sturza une seule universalité, au fond, c'est le fait que l'on soit tous égaux devant Dieu. En revanche, l'égalité rousseauiste, il n'y croit pas.
Il n'y croit pas du tout. Et c'est vrai que d'ailleurs, dans d'autres essais que celui que je viens de citer, qui est d'ailleurs en partie inédit, et que j'ai trouvé le manuscrit intégral, je l'ai trouvé du nouveau dans le fond de Sturza de la maison Pouchkine à Saint-Pétersbourg, un essai de 300 pages, et encore d'autres mémoires et d'autres textes écrits dans les années 10 et 20 du 19e siècle, dans lesquels il critique notamment cet état de l'homme sauvage de Rousseau, et il n'y croit pas que l'homme finalement est né bon. C'est un débat du 18e, mais il ose, je dis ose entre guillemets, polémiquer par des livres interposés avec des grandes penseurs comme Rousseau et Montesquieu.
La Sainte Alliance, malgré tout, elle apparaît, en fait, elle émane de la Russie et d'une forme de mysticisme. D'ailleurs, elle n'est pas signée par le Saint-Siège. Elle est critiquée par un personnage qui est Joseph de Maistre. Il y a véritablement un débat entre Joseph de Maistre et Sturza.
Effectivement, il y a même une polémique qui est très peu connue, je dirais complètement méconnue et ignorée aujourd'hui par l'historiographie. C'est une polémique entre Alexandre Sturza et Joseph de Maistre par des livres interposés. Il faut dire que, plantons le décor, Joseph de Maistre, qui est un écrivain français, un écrivain catholique, d'expression française plutôt,
puisqu'il est sarde.
Oui. Alors, il est diplomate et ambassadeur, il se trouve à Saint-Pétersbourg, il va séjourner à Saint-Pétersbourg 15 ans, entre 1802 et 1817. Et à ce moment-là, dans les salons culturels pétersbourgeois, Alexandre Sturza et sa sœur vont rencontrer Joseph de Maistre, donc ils s'apprécieront mutuellement, réciproquement. D'ailleurs, Sturza va écrire plus tard un pamphlet, il va faire même un portrait de Joseph de Maistre. Il a une différence d'âge importante, puisqu'Alexandre Sturza disait que c'était un vieillard aux cheveux blancs au moment quand il l'a connu en 1810 à Saint-Pétersbourg. Il a une correspondance qu'Alexandre a entretenue avec Joseph de Maistre. Quelques lettres, je les trouvais effectivement dans les archives d'Odessa et Saint-Pétersbourg. C'est seulement plus tard qu'il y aura un débat lié justement à cette question religieuse en
Alors,
Russie.
Quelle est la nature de ce débat? C'est ce qu'on va voir, Stella Gervas, après cette toute dernière pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Restez à l'écoute de Canal Academy. Soit Stella Gervas, auteur du livre « Réinventer la tradition », Alexandre Sturza et l'Europe de la Sainte Alliance, un ouvrage paru chez Honoré Champion, qui a reçu le prix Guizot de l'Académie française. Nous évoquons donc cette personnalité, Alexandre Sturza, dont le rôle politique a été majeur donc dans les années 1812, 13, 14, 15 et un peu au-delà, un rôle politique notamment et surtout à l'occasion du Congrès de Vienne et à l'occasion de la création donc de la Sainte Alliance. Nous avions laissé nos auditeurs sur un conflit, ce conflit entre Joseph de Maistre d'une part et donc Alexandre Sturza. N'est-ce pas au fond ni plus ni moins qu'un conflit religieux entre catholiques et orthodoxes ? Parce que de Maistre répond à Sturza en écrivant tout simplement du pape et il répond à une sorte de pamphlet qui défend l'orthodoxie. Et j'irai même au-delà, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à écrire cet essai sur l'orthodoxie comme le fait Sturza, alors que par ailleurs, dans la Sainte Alliance, il y a une défense de l'œcuménisme?
C'est une question très complexe et pour y répondre, il faut peut-être parler de la situation religieuse en Russie à ce moment-là. Le tsar, je remonte dans le temps, le tsar Pierre le Grand avait remplacé le patriarche traditionnel de Moscou par une direction collégiale, ce qu'on va appeler le Saint-Synode. Un siècle plus tard, Alexandre Ier nomme au poste de haut procureur du Saint-Synode un de ses amis proches, le prince Alexandre Golitsyn. Et alors, ce Saint-Synode avait une mission sous Golitsyn, une mission de propager une sorte de christianisme universel. Un christianisme universel censé concilier foi et raison. Ça peut paraître contradictoire, mais c'était la mission de ce Saint-Synode sous Golitsyn. Dans ce contexte, les jésuites, la compagnie des jésuites, qui avait été jadis chassée des pays occidentaux, notamment de la France dans les années 1770, ils sont très bien accueillis à Saint-Pétersbourg, mais après un certain scandale lié à une vague de conversion au catholicisme, conversion qui ne s'est pas faite sans l'aide et l'implication du comte Joseph de Maistre, qui était bien en fonction diplomatique à Saint-Pétersbourg. Plusieurs familles de la noblesse, de la haute noblesse, ont été touchées par ces conversions en masse. En 1814-15, la compagnie des Jésus est expulsée des deux capitales, de Moscou et Saint-Pétersbourg, pour par la suite être chassée de l'Empire en 1820. Alors, à la suite de cela, bien évidemment, les relations jusqu'alors amicales entre Alexandre Sturza et Joseph de Maistre deviennent un petit peu plus tendues, mais en soi, ça n'aurait pas justifié une polémique entre ces deux penseurs, surtout que les deux faisaient partie de la même famille des contre-révolutionnaires convaincus. La circonstance, c'est justement la publication par Sturza en 1816 de ses considérations sur la doctrine et l'esprit de l'Église orthodoxe. C'est un livre des commandes qui justifie...
Que commande le tsar.
Qui commande le tsar et qui justifie finalement sa politique religieuse. Et entre parenthèses également, l'oukase d'expulsion des jésuites de l'Empire, de deux capitales d'abord et ensuite de l'Empire. Et ce livre, il faut dire qu'il a un retentissement considérable, non seulement dans le monde orthodoxe, mais aussi en Occident. Et il contribue indirectement à faire expulser également Joseph de Maistre de Russie. Joseph de Maistre, qui avait connu bien la famille Sturza, et il est très irrité, et surtout ça ressort dans ses lettres qu'il adresse à des membres du clergé à Rome. Il adresse des lettres au pape où il exprime avec beaucoup de véhémence sa réaction. Il se dit comment c'est possible un livre pareil, surtout écrit par un ami, par un jeune que je connaissais très bien. Et c'est dommage qu'il a mis, je cite des mémoires, il dira c'est dommage qu'il a mis ses qualités intellectuelles au service d'une telle cause ou d'une telle politique. Et finalement, donc, Joseph de Maistre décide d'écrire un anti-Sturza un livre, sera son dernier livre d'ailleurs, le livre du pape, qui avait comme sous-titre effectivement Antisturza. Mais ensuite, l'éditeur de Joseph de Maistre à Paris, de La Place, décidera d'enlever ce sous-titre. Mais Joseph de Maistre ainsi écrira un très beau livre en partant en fait de son ancien ami orthodoxe qui était Alexandre Sturza.
Est-ce que cette querelle vraiment est réductible en quelque sorte à l'opposition entre catholicisme et orthodoxie? Oui.
C'est un livre qui répond tout d'abord à un contexte géopolitique précis. Mmh. Et de l'autre part, tout le débat porte effectivement sur la primauté de l'Église, c'est-à-dire quelle Église est l'héritière légitime de l'Église primitive. Mais au-delà de ça, donc c'est une question en fait assez précise qu'on voit apparaître. Effectivement, on voit un débat théologique et religieux entre les deux églises, l'église chrétienne d'Orient et l'église latine, à propos de cet héritage de l'église primitive. Mais en toile de fond, la vraie question qui se pose, ces deux grands problèmes qui continuent d'ailleurs à nous préoccuper encore aujourd'hui, en Occident, le rôle de l'église dans la sphère publique, dans l'espace public et dans la politique, et à l'Est, celle de l'appartenance de la Russie orthodoxe à un espace culturel européen. Je tiens quand même à dire ici une chose précise. Ce livre créera, en tout cas dans le monde orthodoxe, donc pas seulement donc en Russie, mais aussi en Grèce ou les principautés danubiennes, une petite révolution dans les mentalités, puisqu'il lance pour la première fois en français un mot qui va faire fortune, orthodoxe. Avant ce livre, on appelait l'Église chrétienne d'Orient. On parlait de l'Église russe ou de l'Église orthodoxe comme de l'Église chrétienne d'Orient, d'une Église grecque, on disait l'Église grecque aussi, ou encore l'Église russe. Et alors, c'est Alexandre Sturza qui introduit pour la première fois ce mot orthodoxe, ortho et doxia, qui veut dire conforme à l'enseignement, dans son désir de démontrer l'héritière légitime de l'Église primitive qui est l'Église orthodoxe. Je reviens un petit peu en arrière. C'est un livre qui a été écrit en français, conçu pour un public occidental, puisqu'il est publié d'abord à Stuttgart, en Allemagne, et il est destiné à un public européen. Et c'est vraiment, c'est une sorte de Sturza rempli, une sorte de mission d'être le messager de l'orthodoxie en Occident. Et c'est d'ailleurs par la suite, dans la seconde partie de sa vie, quand il écrira son œuvre théologique à Odessa, il va continuer de jouer ce rôle de messager de l'orthodoxie en Occident. C'est un rôle qu'il s'est donné et qu'on peut retrouver. C'est un fil rouge qui traverse toute son action et son œuvre.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté précisément, et là je reviens à l'idée de Sainte Alliance, puisque vous montrez que Sturza est marqué par cette question orthodoxe, elle domine et j'allais dire elle est à l'origine, on parlait du mysticisme, il est bien là, le mysticisme est à l'origine ou constitue une des origines de la Sainte Alliance. Donc on a un traité qui est celui de la Sainte Alliance qui est dominé par cette question, premièrement, mais deuxièmement qui tente de, c'est le titre de votre ouvrage, de réinventer la tradition, non pas de se situer en contrepoint des Lumières, mais en tous les cas de moderniser en quelque sorte la pensée géopolitique du début du 19e siècle. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre à la fois ce mysticisme, cette volonté de moderniser les choses ?
Effectivement, il y a une contradiction, on pourrait même parler de paradoxe, si vous voulez, puisque d'un côté, Sturza est bien conscient du retard culturel et social du monde auquel il appartient, qui est l'espace de l'Europe orientale, de la Russie, du sud-est européen. Et de l'autre côté, il ne renie pas en bloc l'héritage de la modernité, l'héritage des Lumières. Et ce qu'il souhaitait, en fait, de garder d'un côté sa tradition très riche, qui était l'héritière de la civilisation gréco-byzantine, et en même temps essayer d'adapter, mettre à jour, en quelque sorte, ce message spirituel de l'Église orthodoxe. Il s'inscrit dans un mouvement d'aggiornamento. Ce message est de la spiritualité de ce chrétien d'Orient.
il y a une idée que vous développiez qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas non plus réduire la Sainte Alliance à une question religieuse. Il y a un mysticisme dans la forme, mais pas dans le fond.
Effectivement, c'est un point sur lequel j'aimerais insister. J'ai déjà souligné, en fait, j'ai essayé de montrer qu'à travers les projets de paix perpétuelle, qui permet à la Sainte Alliance de replonger aussi ses racines dans le XVIIIe siècle, alors il a du nouveau le même désir de concilier les inconciliables, en quelque sorte, donc la raison avec la foi. Pour la Sainte Alliance, c'est important de dire que le mysticisme explique sa forme du traité de la Sainte Alliance, notamment son vocabulaire, mais pas vraiment le fond. Je voudrais dire que la Sainte Alliance, c'était une idée des Lumières enrobée des mysticismes chrétiens.
Est-ce que, on l'a vu avec la querelle de Joseph de Maistre, est-ce que cet œcuménisme prend ? Est-ce que cet œcuménisme réussit par la Sainte Alliance ? On sait que le Saint-Siège ne signe pas.
Voilà. Mais justement, c'est cette idée œcuménique qui est.
Que rejette le Saint-Siège. Le Saint-Siège rejette, mais est-ce que les Metternich, Charles X, est-ce qu'ils reçoivent cette idée ? Est-ce qu'ils acceptent cette idée de Sainte Alliance ?
Effectivement, l'idylle tourne court assez vite. Parce que le projet de la Sainte Alliance débouche au tout début des années 20, vers 1820-1821, sous l'influence du fameux chancelier autrichien Metternich, sur l'idée que les puissances ont un droit d'intervention si la situation d'un État menace la paix de ses voisins. Ce droit d'intervention sera formulé lors du congrès de Troppau en 1820, un des congrès de la Sainte Alliance. Et c'est une époque, effectivement, où l'opinion en Europe aspire à une plus forte liberté et où on assiste à une émergence des aspirations nationales. Les armées autrichiennes, prussiennes, russes interviennent un peu partout, en Italie, dans le Piémont, à Naples, en Espagne, pour mater les révoltes populaires. En d'autres termes, on passe à une réaction, c'est-à-dire à cette volonté de maintenir à tout prix l'ancien régime. Et le tsar Alexandre Ier, l'instigateur de la Sainte Alliance, est lui-même aigri finalement par ce qu'il considère comme un échec de sa politique. Malheureusement, donc, il se rend bien compte en fait que la Sainte Alliance n'est pas devenue ce qu'il a souhaité et il se range finalement du côté de Metternich. Donc la répression russe de 1831 par la Russie de Nicolas Ier finit par décevoir tous les espoirs.
Alors justement, Alexandre Sturza, bon, il a un pessimisme tout chrétien. Il se retire en quelque sorte de la vie politique. Il tombe en quelque sorte en disgrâce parce que la politique telle qu'elle se déroule ne correspond plus à ses aspirations. Et on va parler d'aspirations pour le coup vraiment religieuses.
Après l'implication de Sturza dans l'affaire grecque au début des années 1820, parce que parmi ces révoltes populaires, on peut compter également ce mouvement de libération de la Grèce contre les Ottomans, Sturza, qui est grec par sa mère, s'implique dans cette affaire en insistant auprès du tsar pour qu'une intervention de la Russie soit faite dans l'Empire ottoman, pour justement par solidarité avec les frères chrétiens orthodoxes. Ensuite, après cette affaire grecque, Sturza, qui vit un véritable drame, qui est celui d'être un fidèle fonctionnaire ou agent du tsar, et d'autre part, il n'arrive pas à concilier sa fonction finalement avec ce sentiment philhellène profond, il demande une démission qu'il obtient donc au début des années 20.
Donc ce n'est pas une disgrâce, c'est qu'il vraiment il part de lui-même.
Il part de lui-même, il invoque des raisons de santé, mais en réalité, il n'arrive pas à concilier en fait sa fonction donc et d'autre part, mais c'est aussi il y a ce déchirement entre le rêve et la réalité. C'est d'ailleurs un déchirement qui est propre au XIXe siècle, donc il y a un véritable paradoxe là. Donc Sturza part de lui-même, il s'installe à Odessa et toute la deuxième, seconde partie de sa vie, il va passer dans cette ville du bord de la mer Noire, capitale de la Nouvelle-Russie, où il va élaborer son œuvre théologique et littéraire. son œuvre théologique qui consistait justement dans un travail de réforme du message de l'Église chrétienne d'Orient. Sturza écrit des manuels pour les prêtres orthodoxes. Il traduit les pères de l'Église orthodoxe. Il traduit non seulement en grec et en russe ces textes, mais aussi également en français. Puisque dans les années 1840, c'est pour la première fois qu'on publie en français la liturgie du Saint Jean Chrysostome à Paris, qui est une traduction de Sturza, du grec. Sturza poursuit un désir de diffuser son œuvre théologique et littéraire en Occident. Jusqu'à Paris, il est bien conscient que pour se faire connaître en Occident, il faut être connu sur la scène littéraire parisienne. Et là, il entreprend dans les années 40 une véritable stratégie pour traduire et publier ses œuvres en Occident. Malheureusement, il n'aura pas un grand succès, puisqu'il réussit à publier certaines traductions, mais il ne sera pas connu. Et peut-être une certaine notoriété lui viendra post-mortem, justement par la publication de ses œuvres posthumes, en 5 volumes, à Paris.
Vous êtes actuellement chercheur à l'Institut d'études avancées à Paris et vous travaillez sur l'Europe élargie de la Sainte Alliance au traité de Lisbonne. Il y a vraiment un lien entre le passé et le présent. Et d'ailleurs, dans votre conclusion, vous citez un passage de Sturza qui voit ce 19e siècle qui tend les bras à l'industrie et qui laisse de côté, en quelque sorte, cette religion. Et il écrit « L'industrie avec un cœur de glace et avec une tête dure » tend la main et montre le chemin aux enfants frivoles du 19e siècle. L'industrie se tait, car les chiffres lui tiennent lieu de paroles humaines, car l'homme est pour elle un consommateur ou un tas de marchandises. Il y a vraiment une actualité, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire cette émission, c'est qu'il y a une actualité de l'œuvre d'Alexandre Sturza aujourd'hui, lui qui a travaillé sur la Sainte Alliance, lui qui a travaillé dans la réorganisation géopolitique de l'Europe en 1815, au fond, il peut éclairer nos hommes politiques aujourd'hui qui travaillent au traité de Lisbonne.
À propos de cet extrait, il provient donc d'un texte de Sturza écrit en russe, donc adressé à un public russe, et qui s'appelle « Les souvenirs d'un voyageur malgré lui ». C'était son dernier voyage en Europe occidentale. Est-ce qu'on pourrait dire que Sturza est un visionnaire? Parce qu'effectivement, ce fragment il est d'actualité. Mais par rapport à l'Europe élargie d'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord quand on présente ce projet d'unité européenne en le présentant depuis l'an zéro, qui est 1945. Le but de cette Europe élargie, c'est d'élargir la focale non seulement dans l'espace, c'est une évidence avec l'Europe de l'Est, mais aussi dans le temps, en remontant au-delà de 1945 et en s'arrêtant sur des moments clés de l'histoire européenne où il a eu une prise de conscience européenne dans certains milieux et certains groupes. Et un de ces moments clés, c'est aussi cette Europe de la Sainte Alliance, cette période d'après le Congrès de Vienne.
L'Europe n'est pas née en 1945, c'est aussi ce que dit Georges-Henri Soutou, c'est ce qu'il a dit à ce micro de Canal.
Alors les grands esprits se rencontrent.
Stella Gervaz, merci beaucoup, merci d'être venue à ce micro pour nous présenter cet ouvrage donc, qui a été primé par l'Académie française, réinventé la tradition, Alexandre Sturza et l'Europe de la Sainte Alliance, un ouvrage paru chez Honoré Champion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.